Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h en temps universel. Il est 13h ici à Paris et à Rome.
Anne Contenaire.
RFI midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et nos invités pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une ce mardi, l'organisation des obsèques du pape François, elles auront lieu samedi et plusieurs dirigeants ont déjà annoncé qu'ils assisteraient à la cérémonie. Sur la place Saint-Pierre à Rome, de nombreux fidèles tiennent toujours à rendre hommage au souverain pontife décédé hier.
Son travail avec les pauvres, son solidarité est vraiment d'être un peuple progressiste. Il a essayé de faire les changements dans l'Église et c'est vraiment admirable.
Nous appellerons dans une demi-heure notre envoyé spécial à Rome et nous verrons avec notre invité dans un peu plus d'une heure en quoi consiste le protocole maintenant, les prochaines étapes et le déroulement du conclave prévu au mois de mai pour désigner le nouveau pape. Nous vous emmènerons ensuite en Birmanie. Notre correspondante a pu se rendre dans les villes de Mandalay et de Sagung que les autorités tiennent pourtant à maintenir loin du regard des journalistes. Elle a pu recueillir des témoignages rares près d'un mois après le séisme meurtrier qui avait touché la région.
Ma sœur était en train de nager dans la piscine quand le tremblement de terre est arrivé. Aujourd'hui, ils ont sorti 7 corps. À chaque fois, on y croit, mais ce n'est jamais elle. On va devoir vivre sans avoir récupéré son corps avec le doute.
Un reportage à écouter à 12h25 en temps universel. Le président français est à La Réunion aujourd'hui après une escale à Mayotte au cours de laquelle Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour financer le plan de refondation du département. Meurtri par le cyclone Chido au mois de décembre dernier, les difficultés sont encore bien présentes au quotidien comme l'ont raconté des habitants à notre correspondante.
Du 6h à 18h, c'est la galère, c'est la guerre. Et il faut se battre pour avoir la barge. Et sinon, il faut attendre, il faut avoir de la patience. Et comme on dit, on est à Mayotte, donc en fait, il faut que ça change. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ça.
Reportage dans quelques minutes dans notre demi-heure consacrée à l'actualité en France. Nous recevrons aussi le maire de la ville de Mamoudzou. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et d'abord, comme chaque jour, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contenaire, bonjour à tous.
On connaît donc la date des obsèques du pape François.
Oui, ce sera le samedi 26 avril à 10h du matin. Le Vatican l'a fait savoir ce matin, 24 heures après l'annonce de la mort du souverain pontife. La date a été arrêtée par les cardinaux réunis en assemblée. Ces mêmes cardinaux qui, dans quelques jours, se retrouveront en conclave pour élire le successeur de François. Comme pour Jean-Paul II en 2005, on sait déjà que des dizaines de personnalités politiques assisteront aux funérailles samedi. Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, parmi bien d'autres chefs d'État et têtes couronnées. Vladimir Poutine, lui, ne prévoit pas de s'y rendre, selon le Kremlin. Actuellement, le corps de François repose dans un cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence où il vivait au Vatican, encadré de 2 gardes suisses. Direction maintenant l'Argentine, pays qui pleure son pape. Dans le pays natal de François, où le président a décrété 7 jours de deuil national, l'émotion est grande. Les fidèles se sont rendus dans les églises pour se recueillir en hommage à leurs compatriotes. Théo Conscience, notre correspondant, était hier soir dans le quartier de Buenos Aires où François a grandi.
La basilique San José de Flores dans le quartier natal du pape François à Buenos Aires est pleine à craquer. Sur le parvis de l'église où François disait avoir entendu l'appel qu'il a fait entrer dans les ordres, Francisco, 27 ans, a du mal à retenir ses larmes.
J'ai été conquis par son humilité et par la manière avec laquelle il a fait descendre l'église dans la rue. Son ouverture et la manière avec laquelle il a inclus des jeunes qui ne se sentaient pas représentés a permis de faire entrer l'église dans le 21e siècle.
Avec la mort de François, les Argentins ne pleurent pas seulement un pape, ils pleurent aussi l'un des leurs, selon Paula. C'était aussi une fierté que le premier pape latino-américain de l'histoire soit argentin, explique-t-elle. Pour Simone, François a réussi mieux que personne à être le pape de tous les catholiques.
Il a incarné ce qu'il appelait la périphérie, le tiers-monde. Il a donné une voix à l'Amérique latine, à l'Afrique, à l'Asie et à toutes ces régions du monde qui ont été historiquement reléguées.
S'il n'a pas toujours été prophète en son pays, le pape François a été unanimement salué en Argentine hier et beaucoup de ses compatriotes regrettent qu'il ne soit jamais revenu dans son pays en tant que pape. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À l'image de la Chine qui ce matin a présenté ses condoléances, les réactions continuent d'affluer de l'Iran aux pays d'Afrique en passant par les États-Unis. Les dirigeants du monde entier ont rendu un hommage unanime à François. En 12 ans de pontificat, le pape argentin s'était engagé sans relâche à défendre les migrants, l'environnement et la justice sociale, sans pour autant remettre en cause les positions de l'Église catholique sur l'avortement ou bien le célibat des prêtres. Une délégation du Hamas est en route pour l'Égypte afin de discuter de nouvelles idées sur une trêve dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce que dit un responsable du mouvement islamiste. Sur place, toujours de nombreuses victimes. 25 morts ce matin dans les frappes israéliennes de sources palestiniennes.
Haïti, de retour à l'agenda de l'ONU.
Oui, hier soir, le Conseil de sécurité s'est à nouveau penché sur la crise haïtienne. Il a entendu la mise en garde de la représentante de l'ONU sur place. Le pays s'approche d'un point de non-retour et n'a plus beaucoup de temps pour redresser. C'est la barre. Le chaos sera total sans réaction rapide de la communauté internationale. Reportage de notre correspondante à New York, Karine Auton.
Le rapport trimestriel de l'ONU que venait présenter sa représentante en Haïti hier est sombre. 85% de Port-au-Prince sont désormais contrôlés par les gangs. L'autorité de l'État pourrait s'effondrer sous peu. Ces deux derniers mois, 60 000 Haïtiens ont été déplacés, plus de 1000 ont été tués. L'ambassadeur haïtien à l'ONU pointe les liens entre gangs, narcotrafiquants et trafiquants d'armes. L'organisation recommande d'augmenter les soutiens au personnel de sécurité haïtien sans délai. Maria Isabel Salvador.
Haïti a atteint un tournant. Nous approchons d'un point de non-retour. Alors que la violence des gangs continue de s'étendre à de nouvelles régions du pays, les Haïtiens sont de plus en plus vulnérables et sceptiques quant à la capacité de l'État à répondre à leurs besoins. Haïti pourrait être confronté à un chaos total et vos réponses rapides pourront contrer une telle détérioration.
Mais voilà, alors que sous l'administration Biden, les États-Unis et le Canada avaient pris la tête du financement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et qu'ils avaient peiné à rassembler un soutien solide pour envoyer la totalité des forces kenyanes nécessaires, l'ambassadrice américaine a redit hier que les États-Unis de Donald Trump ne pouvaient pas continuer à supporter un fardeau financier aussi important. Karine Auton, New York, RFI.
Le Pakistan a lancé il y a 3 semaines une campagne massive d'expulsion de migrants afghans. Selon Islamabad, ils sont maintenant plus de 100 000, en majorité des enfants, à avoir quitté le Pakistan. Le gouvernement pakistanais accuse les 3 millions d'Afghans vivant sur son sol d'être liés au terrorisme et au narcotrafic. Nouvelle tentative diplomatique pour amener la paix en Ukraine maintenant. C'est demain à Londres qu'aura lieu un nouveau round de discussion entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux. L'objectif étant de parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie. Ukrainiens, Américains, Français et Britanniques s'étaient rencontrés jeudi dernier à Paris. Une première dans ce format. Côté français, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a expliqué ce matin pourquoi, selon lui, la trêve de Pâques avait échoué entre la Russie et l'Ukraine. Il a dénoncé une opération marketing de Vladimir Poutine afin d'éviter que Donald Trump ne s'impatiente. Le même Vladimir Poutine a promulgué hier une série de lois visant à museler davantage, si besoin était, les voix dissidentes, dans son viseur en particulier, les opposants à son offensive à grande échelle contre l'Ukraine. RFI Moscou, Anissa El-Jabri.
C'est à la fois un nouveau durcissement, encore un, et un élargissement de certaines lois existantes. Le discrédit contre l'armée russe et les appels aux sanctions étaient réprimés depuis mars 2022, mais ces deux infractions étaient jusque-là sanctionnées essentiellement par des amendes. Désormais, elles relèvent du pénal. Interdiction toute nouvelle, cette fois, je cite, « aider à mettre en œuvre les décisions d'organisations internationales dont Moscou ne fait pas partie ». Cela peut en inclure beaucoup, et notamment la Cour pénale internationale, basée à la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en 2023. Enfin, les agents de l'étranger sont encore visés. Ce statut voté en 2012 fait l'objet ces derniers mois de constantes nouvelles contraintes et obligations. Cette fois, il s'agit de l'interdiction de siéger au conseil d'administration d'entreprises publiques. Ce statut doit être signalé partout, réseaux sociaux y compris. En Russie, cette liste ajournée en général le vendredi soir comprend désormais 1 millier de personnes et d'organisations, musiciens, écrivains et journalistes réputés notamment. Anissa El-Jabri, Moscou,
RFI.
Après la trêve pascale reprise dans la douleur à la bourse en pleine guerre commerciale mondiale, ce matin les bourses européennes ont ouvert en baisse sur fond d'inquiétude devant les attaques de Donald Trump contre Jérôme Powell. On prête au président américain l'intention de se débarrasser du président de la Fed dont le mandat normalement s'achève en mai 2026, ce qui remettrait en cause l'indépendance séculaire de la Banque centrale des États-Unis.
Emmanuel Macron poursuit son voyage officiel dans l'océan Indien.
Après Mayotte, il est maintenant à la Réunion, autre département français. Le président doit faire le point sur les dégâts provoqués par le cyclone Garance. Également évoqué lors de sa visite, l'épidémie de chikungunya qui, depuis le début de l'année, a fait 6 morts à la Réunion. À quelques 100 000 personnes, soit un habitant sur 9, pourraient avoir été contaminées par cette maladie infectieuse. On écoute Lionel Calange qui dirige le CHU de la Réunion. Interrogé par Paul Inglaise, il réclame des renforts médicaux ainsi qu'un soutien de l'État pour faire face aux multiples défis que doit affronter ce centre hospitalier universitaire.
C'est un CHU très résilient qui gère des crises cycloniques, qui gère des crises sanitaires depuis plusieurs années. Évidemment, il y a des grands sujets hospitaliers. Le CHU de la Réunion est à la croisée des chemins. Il prend en charge depuis 14 ans les évacuations sanitaires de Mayotte. Mayotte, c'était 400 transferts sanitaires vers la Réunion il y a 12 ans. Maintenant, c'est 1600, 1700 même. Il y a un impact financier pour le CHU de la Réunion. Il faut savoir que le CHU de la Réunion, c'est un des CHU qui a le moins d'hospitaliers universitaires, en clair de professeurs des universités, praticiens hospitaliers. Donc, accompagner ce développement hospitalier universitaire. Nous avons une opération immobilière emblématique également, qui est un projet de bâtiment femmes, parents, enfants. Nous espérons avoir effectivement des accompagnements sur ces points-là. Et le CHU, malheureusement, de la Réunion est en déficit. Et nous avons un besoin d'aide en trésorerie de 16 millions d'euros. Il appartiendra évidemment au président de la République et au ministre de se prononcer sur le niveau de soutien gouvernemental dont peut faire l'objet le CHU de la Réunion.
Lionel Calange, donc le directeur du CHU de la Réunion. Enfin, dans l'actualité sportive du jour du basket, avec le coup d'envoi des quarts de finale en Euroleague, c'est la principale coupe d'Europe. Deux équipes du championnat de France sont en lice. L'AS Monaco Basket, qui demain défiera le FC Barcelone. Et Paris Basketball, parvenu à ce stade de la compétition dès sa première participation. Il affronte le Fenerbahçe Istanbul dans une série disputée au meilleur des 5 matchs. Le premier qui atteindra 3 victoires validera son ticket pour les demi-finales. Premier match ce soir à Istanbul, 17h45 TU. Bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI, la France à midi.
Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée dans le sud-ouest de l'océan Indien. On en parlait il y a quelques instants dans le journal. Il est aujourd'hui à La Réunion. Et hier, le chef de l'État français se trouvait à Mayotte où il a annoncé une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour financer le plan de refondation du département qui avait été très affecté par le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Bonjour Anne Verdaguet.
Bonjour.
Ce projet de refondation, il est assorti d'une enveloppe financière de 3 milliards 200 millions d'euros entre 2025 et 2031.
Oui, le texte de loi sera voté d'ici l'été prochain, a promis le président. Les prêts à taux zéro sont en train d'arriver, a-t-il ajouté. Sur place, c'est une impression de décalage qui domine par rapport aux besoins des habitants, mais aussi des entreprises. L'économie est à l'arrêt, en raison notamment du retard dans l'indemnisation des dégâts. Charles-Henri Mandalaz est le président du syndicat de l'hôtellerie de Mayotte.
Nous, la problématique, c'est la relance économique. Aujourd'hui, les collègues sont dans le dur, puisque malheureusement, comme les bâtis ont été détruits, on n'est pas dans une crise classique comme on a connu par le passé avec la Covid, ou la crise de l'eau, ou l'insécurité, etc. Là, on est sur une problématique où nos outils de travail sont détruits, partiellement ou totalement. Et ce n'est effectivement pas à l'État d'aller rembourser nos bâtis et d'opérer la reconstruction. C'est bien au groupement d'assurance qui couvre nos activités professionnelles vers lesquelles nous avons souscrit une assurance. Actuellement, on est dans le dur. Et les structures ne peuvent pas supporter encore 6 mois d'inactivité, c'est pas possible. Les emplois commencent à sauter, les entreprises commencent à fermer. Donc ça ne peut plus continuer. Il faut vraiment que cette fois-ci, les indemnisations tombent et que la machine se mette vraiment urgemment en route. On est arrivé au bout. Là.
Les assureurs pourraient devoir débourser entre 650 et 800 millions d'euros. Et cela concerne surtout les entreprises, car seuls 6% des particuliers sont assurés à Mayotte.
Oui, et le coût total des dommages a été estimé à 3,5 milliards d'euros, au-delà des aides d'urgence annoncées. Charles-Henri Mandalaz estime qu'il faudrait remettre tout à plat alors que les Français vivant à Mayotte se sentent délaissés et réclament le même traitement que leurs concitoyens de métropole.
On est toujours en manque de tout, en retard de tout. On est un département encore en phase de construction et pas de reconstruction. On est même en phase de construction tout court. Le désenclavement du département sur le fret, où on a d'énormes problématiques de rupture et des coûts de fret qui sont extraordinairement élevés. Pareil, l'aérien, avec peu de propositions et donc des coûts d'aérien exorbitants pour venir chez nous. Mais voilà, il y a tellement de sujets où Mayotte mériterait mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Il faudra bien effectivement qu'on parle de ce sujet-là à plat et qu'on se dise dans les yeux, effectivement, nous avons droit, nous aussi, en tant que citoyens français et 101e département, au même droit que nos autres collègues ultramarins ou que nos concitoyens de métropole, c'est évident.
Charles-Henri Mandalaz, président du syndicat de l'hôtellerie de Mayotte, Emmanuel Macron, qui prévoit aussi dans son projet de loi une convergence sociale entre la métropole et l'archipel où les minima sociaux comme le RSA sont aujourd'hui 50% inférieurs.
Anne Verdaguet. Et on va voir ce que pense de ce plan le maire de Mamoudzou, votre invité politique, Véronique Rigolet.
Bonjour, Ramdi Louaïdou Soumaïla. Ah, nous n'avons pas...
Bonjour. Bonjour à tous.
Ah, vous nous entendez. Merci de nous rejoindre sur RFI. En direct de Mamoudzou, après la visite éclair d'Emmanuel Macron hier à Mayotte, 4 mois après la dévastation du cyclone Chido, le président, vient de l'entendre, a donc promis un peu plus de 3 milliards sur 6 ans pour la reconstruction de l'archipel, le département le plus pauvre de France. Est-ce que c'est le coup d'accélérateur que vous attendiez? Est-ce que c'est tout simplement à la hauteur de l'attente des Mahorais?
Alors, si vous me le permettez, avant même de parler, votre interlocuteur tout à l'heure disait on attend que la France s'organise pour qu'on puisse être comme l'ensemble des autres départements. En réalité, avant même de parler de la reconstruction dans 6, 10 ans, 3 milliards d'euros, il faut déjà qu'on regarde la réalité. Et c'est ce que nous avons en tant que maire hier, à travers notre collègue maire de Sada, qui a parlé à notre nom. On a interpellé le président en disant « ça fait 4 mois, monsieur le président, que le territoire a été dévasté. Ça fait 4 mois, nous sommes toujours en train d'attendre les fonds d'urgence pour nous permettre ne serait-ce que de nous relever. Comment peut-on parler de l'avenir si déjà les fondations et les bases ne sont pas là ?» Et ça, c'est notre vrai sujet. On a nos collectivités, Mamoudzou, c'est 91 millions d'euros de dégâts. Nous avons déjà engagé plus de 15 millions d'euros pour refaire les écoles. Les entreprises, comme ça a été dit tout à l'heure, sont déjà en train de tirer la langue en disant ben, on risque de fermer nos entreprises parce qu'on n'est pas payé à date aujourd'hui alors que nous les avons mobilisés pour construire des écoles. Ça,
comment,
c'est un vrai problème.
Comment expliquer que 4 mois après le passage du cyclone, les défis restent aussi colossaux? Comment expliquer que le processus de reconstruction patine?
Le président était venu en décembre dernier, le premier ministre a suivi, il y a plusieurs ministres qui sont venus.
Il y a eu un plan d'urgence.
Nous sommes en train de répéter les mêmes choses. C'est pourquoi quand le président de la République annonce 3 milliards dans les prochaines années, mais quand on regarde ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les services ne suivent pas. Les engagements sont posés, le président pose les enjeux et que derrière les services ne suivent pas. Ça pose un vrai problème.
Donc ces 3 milliards d'investissements publics qui doivent être fléchés vers l'eau, l'éducation, la santé, pour le moment, c'est juste un vœu pieux, c'est juste une promesse d'un avenir meilleur.
Comment nous pouvons croire à cela si les 100 millions du fonds d'amorçage qui ont été annoncés jusqu'à aujourd'hui, 0 euro a été alloué dans nos collectivités. Comment peut-on croire à 3 milliards si déjà 100 millions d'euros qui doivent être décaissés tout de suite et maintenant, c'est toujours pas fait. Le vrai sujet, il est là. Les engagements sont posés, le président a fait des annonces, mais derrière, la réalité fait qu'aujourd'hui, on constate que rien ne bouge.
Quel est le quotidien aujourd'hui des Mahorais, 4 mois après la catastrophe?
Le quotidien de Mahorais, c'est quand ils se mettent à pleuvoir parce qu'on est toujours en saison pluvieuse. Ben, c'est des maisons qui continuent à prendre l'eau parce que les gens n'ont pas encore les moyens. Parce qu'on nous a parlé tout à l'heure d'un prêt à taux zéro pour les ménages. Mais en réalité, quand vous êtes sur un territoire où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, qui peut aller s'endetter à 50 000 euros sur 20 ans, alors que nous savons que le montant, le seuil maximal, le montant maximal qu'un ménage peut emprunter, ne peut même pas couvrir le toit. Pourquoi aller s'endetter si on n'est même pas sûr, parce que ça a été dit tout à l'heure, l'inflation, le coût ici, en termes d'inflation, est exorbitant, les matériaux coûtent extrêmement cher, mais qui va aller emprunter 50 000 euros sur 20 ans, donc s'endetter sur 20 ans, alors qu'on sait que les 50 000 euros ne suffiront pas, ne serait-ce que refaire le toit. Je ne parle pas mais des autres sujets qu'il y a dans les maisons pour reconstruire nos maisons. Voilà, la situation, elle est aujourd'hui.
Les priorités, après, c'est que les financements arrivent et vite, si je vous entends bien.
Et vite parce que, encore une fois, on a vécu une catastrophe ici. Il y a eu des décrets qui ont été faits, catastrophe naturelle, il y a calamité agricole. Et si 4 mois après, rien n'arrive, on ne pourra pas payer les entreprises. En réalité, on va rajouter la crise à la crise, parce que la crise sociale qui va arriver parce que les entreprises ne pourront plus payer les salaires et qui seront obligées de licencier les gens, là, ça sera compliqué après.
C'est l'effondrement de l'activité économique que vous craignez aujourd'hui ?
Parce que les entreprises, ne serait-ce que pour Mamoudzou. Mamoudzou, je prends juste la thématique de l'école. Nous avons fait notre diagnostic, 18 millions d'euros pour refaire l'ensemble des écoles qui ont été détruites par Chilou. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions d'euros engagés. Ça veut dire que les entreprises ont tiré sur leur trésorerie pour payer, faire les travaux. Aujourd'hui, je viens à l'instant, là, avant de vous prendre à l'antenne, je viens de finir avec une entreprise qui vient de me dire, monsieur le maire, on n'arrive plus. On n'arrive plus parce que nos fournisseurs n'acceptent plus de nous donner des matériels parce que vous ne nous payez pas, alors qu'on leur demande de faire des travaux. Donc ça devient un vrai sujet pour nous. En même temps, à côté, on dit que l'argent, il est là. Oui, mais l'argent, il est là. Il est de quelle couleur? On n'a jamais vu la couleur jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet.
On entend cette urgence économique pour le président Macron. Eh bien, cette refondation passe également par la baisse de l'immigration illégale en provenance des Comores ou bien encore du continent africain. Le président a notamment annoncé un mur de fer pour lutter contre cette immigration clandestine qui alimente également la colère des Mahorais. Est-ce que ce nouveau plan sécuritaire est le bienvenu? Est-ce que c'était une urgence?
Nous avons demandé quelque chose de très simple. Je vais vous dire, j'ai fait hier avec le président de la République la séquence sur la lutte contre l'immigration illégale à Longoni, au port de Longoni. Nous avons pris les bateaux là pour aller faire un petit tour à la mer pour nous expliquer comment ça se passe. Le sous-préfet en charge de cette thématique nous a dit, écoutez bien ce que je dis, 100 millions d'euros qui sont engagés par l'État pour lutter contre l'immigration illégale. Nous, à Mayotte, nous proposons des solutions à 0 euros. Vous voyez la différence?
Alors c'est quoi votre solution à 0 euros?
Très simple. On interdit désormais qu'une personne vienne sur le territoire de Mayotte et implanter un bidonville. Ça veut dire que la loi qui était en cours de discussion hier dans l'avion présidentiel, nous avons demandé, les élites de Mayotte, la population de Mayotte a demandé à ce qu'on interdise purement et simplement l'érection d'un bidonville sur le territoire. On le pénalise parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand vous arrivez à Mayotte, vous allez faire un banga, un bidonville, ça vous crée des droits. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui doit être fait. Quand vous allez mettre un bidonville, vous pouvez vous retrouver en prison. Là, déjà, les gens, ça va freiner les gens qui veulent venir ici, parce que si vous voulez venir à Mayotte, si vous n'avez pas de logement, c'est pas la peine d'y aller. Parce que les bidonvilles vous amèneront en prison. Première chose.
Vous avez parlé de ces solutions au président?
Bien entendu, au président, à l'ensemble des ministres, ils le savent. Mm-hmm. On a fait mieux, on les a écrits. Donc, ce n'est pas qu'on en a parlé, on les a écrits. Deuxième sujet, qui est très simple aussi. Nous avons demandé à ce qu'on mette fin aux séjours territorialisés. Pourquoi? Parce que les séjours territorialisés, ce sont des séjours délivrés à 95% à des personnes qui arrivent sur le territoire de Mayotte en situation irrégulière. Maintenant, si on interdit, en tout cas on supprime ces séjours territorialisés, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous êtes étranger, vous venez de l'Afrique, des Comores et partout, vous savez que quand vous arrivez à Mayotte, vous ne serez jamais régularisé. Parce que ça sera désormais, il ne sera plus possible d'être régularisé à la préfecture de Mayotte. Mais quand vous faites ça, mais vous divisez par 5, par 6, déjà les personnes qui font le choix de venir ici pour trouver des papiers.
Voilà, les élus, hein.
Pour une fois à 0 euros.
Les élus mahorais qui souhaitent ainsi que l'Hexagone aide Mayotte en recevant ces étrangers locaux. Hein. On précise ce que sont ces titres de séjour territorialisés. Sur ces deux demandes, quelle a été la réponse du gouvernement? Ces solutions à zéro euro, il n'y a pas eu de réponse.
Il n'y a pas eu de réponse, malheureusement, et c'est ce que nous regrettons beaucoup, c'est que des solutions à 0 euro, on nous propose des solutions à 100 millions d'euros. Vous voyez, on devait dire que l'argent du contribuable qui peut servir à développer le territoire, à faire des infrastructures qui manquent, on le prend, on le jette à travers le lagon, parce que c'est ça la réalité. On jette l'argent à travers le lagon en faisant de la lutte contre l'immigration illégale avec 100 millions d'euros.
Vous avez toujours le sentiment de ne pas être entendu 4 mois après le cyclone?
Malheureusement, ceux qui viennent ici, ils viennent avec leurs solutions bien faites, préparées depuis les beaux bureaux parisiens. Quand vous vivez les choses sur le territoire, les solutions doivent venir ici. C'est ce que nous a vendu, que maintenant on allait co-construire les propositions pour développer le territoire. Force est de constater que malheureusement, tout ce que nous avons proposé, tout ce que les élus ici ont présenté, tout ce que nous avons suggéré au ministre des Outre-mer, rien n'a été retenu, malheureusement.
Merci Amdil Waïdou Soumaïla, maire de Mamoudzou. Une très bonne journée, un bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Entretien à votre micro, Véronique Rigolet, à retrouver sur internet rfi.fr. Aujourd'hui encore, on l'a entendu, 4 mois après le passage du cyclone Chido, les habitants de Mayotte reste très touché, rencontre de nombreuses difficultés. 2 exemples, l'accès à Internet, toujours instable, ou encore le transport. La barge qui relie les 2 principales îles de l'archipel fonctionne mal. Et pour les milliers de personnes qui vont travailler à Mamoudzou, il faut souvent attendre 1 heure au moins à Petite Terre. Reportage de notre correspondante Lisa Morisseau.
C'est une scène quotidienne depuis le passage de Chido. À l'heure de pointe, sur le quai Balou à Mamoudzou, les esprits s'échauffent. À l'horizon, aucune barge. Les voitures, scooters et piétons s'agglutinent. Assis sur son deux roues, Swafoudine Amiri prend son mal en patience.
Du 6h à 18h, c'est la galère, c'est la guerre. Et il faut se battre pour avoir la barge. Et sinon, il faut attendre, il faut avoir de la patience. Et comme on dit, on est à Mayotte, donc en fait, il faut que ça change. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ça.
Les 2 barges de 700 places chacune ont été très abîmées par le cyclone et sont hors service. Aujourd'hui, celles en circulation ont une capacité 2 fois plus faible, ce qui génère des embouteillages monstres. Anne enseigne dans un collège de Mamoudzou.
Je viens pour travailler, moi. La semaine dernière, je suis arrivée 5 fois en retard sur 5 jours de travail. Voilà, ça devient très compliqué. Il y a aussi le souci pour les piétons, on ne sait plus comment faire pour attendre. Il fait très chaud, tout le monde se pousse, il n'y a pas assez de barges. Ça nous prend notre énergie avant même d'aller au travail.
Pour soulager le trafic, les Seychelles ont mis à disposition 2 navires. Une fois arrivés à Mayotte, ils se sont révélés inadaptés au quai. Finalement, ils n'ont pu transporter personne et sont repartis bredouille 1 mois plus tard. À 2 km de là, à Kaweni, devant la boutique d'un opérateur, les clients défilent pour aller chercher une clé 4G, car les box internet ne fonctionnent plus. Les soucis de connexion sont une autre préoccupation majeure des habitants. Nabila habite le quartier, elle rencontre des difficultés.
Et j'ai la 4G sur mon téléphone, mais 2 fois ça bug la journée.
Elle est obligée d'aller chez des proches qui ont une meilleure connexion.
2 fois je vais chez ma voisine pour regarder des dossiers qu'on m'a envoyés à l'hôpital, parce que je suis suivie à l'hôpital.
Vincent et ses colocataires ont fixé des règles pour partager le peu de connexion disponible.
Je ne regarde pas du tout de vidéos, on s'est posé cette règle-là de me dire en fait les vidéos consomment trop, donc on ne regarde pas de vidéos. Et ça date depuis Chido, donc ça commence à peser un petit peu. Je me suis mis beaucoup à la lecture, et voilà.
S'il est aussi compliqué de surfer sur le web, c'est parce que des pylônes situés sur des points hauts ont été arrachés par le cyclone, mais aussi parce que l'ensemble du réseau ADSL a été cassé. Yves Gauvin, directeur de SFR La Réunion Mayotte.
Aujourd'hui, les gens, comme ils n'ont plus accès à leur box Internet par la DSL, ils utilisent leur mobile ou une box 4G pour pouvoir aller sur Internet. Comme on a beaucoup plus d'utilisateurs que ce qu'il faudrait, ça sature les réseaux mobiles.
La reconstruction du réseau et l'installation de la fibre prendra des années. D'ici là, l'État mise sur le déploiement de la 5G. Des fréquences viennent d'être libérées sur le territoire.
Reportage de Lisa Morisseau à Mayotte, où le président français a donc annoncé hier un plan de refondation de ce département qui est toujours très affecté, on l'a entendu, par le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes sur RFI pour une demi-heure consacrée à l'actualité européenne. On va notamment revenir sur l'organisation des obsèques du pape.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.